Entre nous, on se dit tout.
Interview.
Entrevue.
Nous sommes à la Halle de Dieulefit pour une journée de rencontres et d'ateliers sur le thème de la vieillesse et de l'habitat. Pour en parler, nous sommes avec Bernard Ennuyé, sociologue invité pour l'occasion par la communauté de communes de Dieulefit-Bourdeaux et spécialiste justement de ces questions de vieillissement et d'habitat. Bonjour, monsieur Ennuyé.
Bonjour.
Anticiper et choisir son habitat pour une vieillesse heureuse, c'est le nom de cette conférence interactive qui a réuni une soixantaine de personnes à la Halle de Dieulefit aujourd'hui. Est-ce que vous êtes surpris de voir autant de monde à ce type de rencontre sur cette thématique ?
Ben, je dirais oui et non. Oui, j'ai été un peu surpris parce qu'on m'avait dit que ça n'avait pas tellement mobilisé et qu'on a dû rajouter des chaises. Donc à la fois, je suis surpris et puis en même temps, non. Parce qu'on va en reparler, mais il y a toute une évolution des gens qui vieillissent, dont je fais partie, et qui ont envie de réfléchir effectivement sur leur habitat d'aujourd'hui et de demain. Et en même temps, oui, ça signe qu'il y a une évolution. Et donc j'étais très content. Et en plus, les débats ont été très riches. Et donc, en tout cas, je me félicite qu'il y ait eu 60 personnes, en plus, qui vraiment ont participé de façon remarquable.
Que ressort-il de ces prises de parole, de ces débats auxquels ont pris part les habitants à Dieulefit sur ce thème du vieillissement et de l'habitat ?
Ben, moi, ce que j'ai entendu beaucoup, c'est que on a évoqué ce matin beaucoup de choses qui existent. Bien sûr, de rester dans son domicile, mais aussi d'être dans un habitat partagé, d'être dans un béguinage, d'être dans une maison d'accueil rural personnes âgées. Mais les gens disaient quand même que c'était dur de trouver l'information, qu'il y avait en même temps beaucoup de choses qui se développaient, et donc ils ont demandé encore tout à fait enfin, là, comment localement il pourrait y avoir une information. Là, les gens qui sont venus, c'est quand même des gens qui sont un peu branchés, qui étaient intéressés, mais il faut penser à tous les gens qui n'étaient pas là, et ils ont demandé qu'il y ait plus d'informations sur toutes les possibilités locales.
Justement, sur ce type d'initiative locale, ici à Dieulefit, il y a pas mal d'initiatives innovantes avec des habitats de type intergénérationnel ou penser de manière collective comme Ecoravi. Est-ce que ce type d'initiative a vocation à se développer localement et même à l'échelle nationale selon vous ?
Ben, non seulement ça a vocation à se développer, mais genre, j'ai expliqué dans un aspect historique que ça s'était mis à se développer dans les années 80, que ça s'accélère, et que ce que j'ai entendu ce matin beaucoup de la part des participants, c'est ce que j'appelle moi d'une certaine façon le retour au collectif. D'une façon générale par rapport aux difficultés sociales, notamment écologiques. Les gens se rendent compte que l'avenir n'est pas à l'individualisme exacerbé comme on a pu le connaître, mais qu'il y a un retour au collectif, à la mutualisation, à l'entraide. Et ça, je l'ai beaucoup entendu ce matin. Et effectivement, localement, j'ai trouvé qu'il y avait plein de choses. Mais moi, je pense que c'est quand même un aspect qui se développe dans la société et que d'une certaine façon, c'est notre avenir, sinon on risque de ne pas en avoir.
Concrètement, en termes d'habitat, en tant que personne âgée, on a parlé de ce type d'habitat intergénérationnel. Est-ce qu'il y a d'autres manières de... Je ne sais pas, on entend parfois parler de colocation entre personnes âgées. Quels sont les types de manières d'habiter qui peuvent être une solution quand on avance dans l'âge ?
Alors, il y a effectivement beaucoup de solutions. Alors, de ce qu'on appelle d'une façon générale l'habitat participatif. Alors, il y a des gens qui ont choisi de vivre ensemble. Alors, certains sont en colocation. Je citais un exemple à Montpellier où des gens ont mis ensemble un habitat collectif où certains ont acheté, d'autres ont loué. Il y a ce qu'on appelle aussi des béguinages, notamment dans le Nord. Ça veut dire des appartements qui étaient liés à des religieuses au XIIIe siècle, où les gens sont à la fois leur habitat individuel, mais sont dans la vie commune. Il y a ce qu'on appelle des MARPA, des maisons d'accueil rurales pour personnes âgées, qui est une initiative de la mutualité agricole. J'ai entendu ce matin encore des pensions de famille, ou des gens, ou de l'habitat intergénérationnel, ou encore, moi j'ai un copain qui fait de l'habitat uniquement pour des gens détériorés psychiquement, pour éviter l'entrée en EHPAD. Il y a beaucoup de formules, et vous l'avez dit localement, j'ai entendu des choses, il y a une maison Marguerite là, ce que je constate, c'est que sur le territoire français, c'est beaucoup des initiatives qui viennent du bas. Ce ne sont pas des initiatives des politiques publiques. Ce sont les citoyens qui s'organisent pour vieillir ensemble sans avoir besoin forcément des aides publiques qu'ils trouvent insuffisantes.
La question d'un territoire rural comme Dieulefit, qui compte 47%, je crois, de 60 ans et plus, avec une forte dynamique d'installation de personnes à la retraite. Est-ce que ces territoires ruraux, malgré les problématiques d'accès aux services de proximité ou de soins, ont-ils de l'avenir pour les personnes âgées ?
Ben oui, parce que, il y a quand même aujourd'hui une donnée importante, même si elle n'est pas donnée à tout le monde, c'est le télétravail, c'est les liaisons à distance, qui permettent à des gens de rester dans des territoires un peu isolés, même si la question de la mobilité a été beaucoup posée ce matin. Hein. Qu'est-ce que je ferais quand je ne pourrais plus conduire ? Donc, ça suppose que le réseau local s'organise au niveau des transports, ce qui n'est pas évident. Mais moi, je pense que les gens ruraux voulant rester chez eux, même s'ils sont que 20% en France, ils vont par la force, ils vont amener des innovations qui d'ailleurs pourra servir aux citadins. Et je trouve que c'est intéressant que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le niveau rural est peut-être une terre d'innovation plus importante que la grande ville.
Vous avez beaucoup écrit sur l'accompagnement à domicile pour les personnes âgées. Si je ne me trompe pas, vous avez d'ailleurs dirigé un service d'aide et de soins à domicile à Paris pendant 35 ans. Est-ce que le maintien à domicile ou l'autonomie dont on parle beaucoup est envisageable pour tout le monde ?
Alors c'est ce que je disais ce matin. Je disais quand même qu'il y a effectivement... j'entendais ce matin un discours assez pessimiste sur la vieillesse. Il y a des gens qui vont vieillir dans très mauvaises conditions. Ça veut dire incapacité physique et incapacité psychique. Ils sont autour de 700 à 800 000. Ils sont là, ces gens-là. Mais il ne faut pas oublier qu'ils sont minoritaires. Ça veut dire que la plupart des gens, comme disent mes copains de santé publique, notamment les hommes, vont plutôt vieillir sans incapacité majeure. Voilà, ça c'est un premier point. Je trouve qu'on voit trop en France la vieillesse comme franchir toutes les étapes du déclin. Ce n'est pas vrai. C'est vrai que ça touche plus les femmes, et les femmes sont plus isolées socialement parce qu'elles sont avec des hommes qui sont plus âgés, qui meurent plus tôt. Les femmes ont moins d'argent, elles ont plus de difficultés de santé. Mais... c'est 800 000 personnes, et il faudrait s'en occuper davantage, mais ne cédons pas à cette espèce de phobie, notamment des politiques publiques, qui voient tous les vieux comme des gens qui vont être complètement décatis et qui vont coûter cher. Ça, c'est une idée qui est fausse. Mais il n'empêche que la minorité des 700 ou 800 000, il faut s'en occuper davantage qu'on s'en occupe aujourd'hui.
Vous parliez de politique publique. Sur le plan de l'habitat, une société qui serait inclusive envers les personnes âgées, ce serait quoi, selon vous, Bernard Ennuyer ?
Alors, une société inclusive, c'est une définition qui a été donnée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, que j'aime beaucoup. Une société inclusive, c'est une société où les gens sont associés à tous les projets qui les concernent. Donc si on parle de l'habitat, ça veut dire quelles que soient les formes d'habitat qui sont mises en place, il faut que les gens soient partie prenante. Est-ce qu'ils ont envie de vivre avec d'autres ? Avec des jeunes, avec des moins jeunes, avec des vieux ? Il y a des endroits en Allemagne où les veuves se sont regroupées entre elles parce qu'elles veulent être entre veuves. Et il y a aujourd'hui des maisons pour gays, pour lesbiens. Ça veut dire une société inclusive, j'insiste beaucoup et c'est loin d'être le cas, c'est d'associer tous les gens aux projets qui les concernent, quelle que soit leur capacité physique ou psychique de comprendre. Il faut donc qu'on aille vers ces gens-là et qu'on ne pense pas pour eux et qu'on pense avec eux et qu'on travaille avec eux.
Le collectif dont vous parliez.
Le collectif avant tout, ça c'est vraiment le retour au collectif. Moi, alors ça va se passer sur 30 ou 40 ans, hein, mais moi je suis très frappé, je disais, ça a commencé dans les années 90, ça s'accentue sous la pression écologique, mais je suis très content de voir ce retour au collectif.
C'est peut-être pas une réalité, mais notre société est souvent pointée du doigt pour son individualisme, justement, et l'invisibilisation des personnes âgées. Est-ce qu'on pourrait voir renaître, alors vous dites plus de collectifs, ce serait une très bonne chose, est-ce qu'on pourrait voir renaître, par exemple, l'accueil des anciens au domicile des enfants, par exemple, comme ce qui existait avant ou ce qui a pu exister dans d'autres pays ?
Alors, moi, je ne suis pas pour. Alors, on en a parlé ce matin. C'est une image qui colle à la peau qu'au 18e, au 19e siècle, les parents finissaient leur vie chez les enfants. C'est une image fausse. C'était un modèle. C'était le modèle bourgeois des enfants qui pouvaient se permettre d'accueillir leurs parents. Mais les familles ouvrières qui avaient du mal à survivre, elles ne pouvaient pas s'occuper de leurs parents. Donc cette image est fausse. Et en plus, aujourd'hui, je pense que c'est fini. Enfin, on voit bien dans ma génération, moi j'ai 77 ans, nous essayons absolument de ne pas avoir besoin de nos enfants pour continuer à vivre et justement de trouver d'autres solutions. Je ne pense plus personnellement que ce soit aux enfants à supporter la vieillesse de leurs parents. Les enfants, ils ont quand même beaucoup de difficultés à vivre, quelles que soient les générations. Moi, j'ai des enfants et des petits-enfants. Et je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée Je disais tout à l'heure, souvent les enfants sont très inquiets pour leurs parents. Et du coup, ben, ils leur proposent des solutions qui ne sont pas forcément... Leurs parents souhaitent garder de l'indépendance, leurs parents ou grands-parents. Et je pense que justement, c'est aux politiques publiques et à nous de nous organiser pour ne pas avoir besoin de l'aide de nos enfants. Que nos enfants continuent à venir nous voir, ok, mais qu'ils ne soient pas obligés de venir faire les courses, de venir faire le ménage, ce n'est pas leur boulot. Vraiment.
Quand on parle d'hébergement en structure de type EHPAD ou d'hébergement ou d'accompagnement à domicile, est-ce que c'est une question de niveau de vie notamment ? Est-ce que c'est vraiment un choix pour les personnes et comment est-ce que ça pourrait le devenir ? Pour le coup, est-ce que c'est les politiques publiques qui doivent peut-être injecter plus d'argent pour permettre ce choix ?
Alors, c'est évident qu'on en a parlé, effectivement. C'est la vieillesse de Beauvoir. C'est suivant ta position sociale, suivant que tu as une retraite confortable et que tu es au minimum vieillesse à 900 euros, tu n'as pas les mêmes choix. Donc, on voit bien que, notamment, la plupart des gens qui rentrent en EHPAD, c'est des gens qui n'ont pas suffisamment d'aide à domicile, soit qui n'ont pas de famille qui peut les aider, soit qui n'ont pas les moyens de se payer des aides, puisque les politiques publiques sont insuffisantes. Donc pour répondre à cette question, ce qui est clair aujourd'hui, c'est que les politiques publiques, aussi bien pour le domicile que pour l'hébergement, sont insuffisantes en matière de qualification des personnels, de nombre de personnels, de salaire des personnels. Et que dans ce point de vue-là, si tu as de l'argent, moi je vois quand j'étais à Paris directeur de service, il y avait des gens qui se payaient des gardes de jour et de nuit permanentes à 6 000 euros par mois. Si tu as aujourd'hui 5 000 euros par mois de retraite, tu peux trouver un EHPAD de bonne qualité ou un domicile. Les gens qui sont au minimum vieillesse, ils n'ont pas le choix. Et aujourd'hui, on est assez d'accord que les politiques publiques en France sont complètement insuffisantes pour permettre le même choix à toutes les catégories sociales.
Vous avez dit un mot du réchauffement climatique. Est-ce que, selon vous, ce phénomène pourrait changer les dynamiques en matière d'habitat des personnes âgées, à la ville comme à la campagne ?
Ben sûrement. On me dit l'autre jour, oui, on discutait, oui, on me dit le réchauffement climatique, nous on s'en fout un peu parce qu'on a encore 10 ou 15 ans à vivre et que. Mais c'est pas vrai parce qu'on a des enfants et des petits-enfants et le réchauffement climatique va impacter tout le monde et notamment en matière de précarité énergétique. C'est vrai que tous les nouveaux habitats, qu'ils soient pour des jeunes ou pour des vieux, il faut qu'ils fassent attention aux consommations et tout ça. Donc forcément, l'impact écologique nous concerne tous et je crois qu'il renforce, s'il y a un mal pour un bien, il renforce l'urgence de travailler ensemble et d'arrêter l'hyper-individualisme, dont on a accusé aussi quelquefois les vieux, en disant « vous voyez les choses qu'à votre regard, et non, soyez solidaires des autres générations ». Je pense que nous devons être solidaires des autres générations.
On parle souvent d'ailleurs de fracture des générations, pour parler de fracture numérique ou de fracture potentielle sur des valeurs comme le travail ou la famille. Bon, je ne sais pas si c'est une réalité ou pas, mais sur une fracture sur l'habitat, est-ce qu'on devrait voir se dessiner de nouvelles formes d'habiter pour les personnes âgées dans le futur, selon vous, avec les nouvelles générations qui vont vieillir ou pas forcément ?
Alors moi, j'ai écrit il n'y a pas longtemps, je pense que la fracture des générations, c'est quand même, d'une certaine façon, c'est un mythe qui alimente un certain nombre de peurs. On a vu pendant le Covid que ce n'était pas vrai. J'ai vu des statistiques où finalement, ceux qui ont le plus pâti finalement du Covid étaient plutôt les jeunes générations et notamment les jeunes femmes, isolées, plus que les vieilles personnes dont on s'est occupé. Mais de toute façon, la pression des modifications de la société va obliger les uns et les autres à cohabiter ensemble. Alors, il peut y avoir des formes d'habiter intergénérationnel, mais il peut y avoir des formes d'échange de services. Les vieux sont capables d'aider leurs enfants ou leurs petits-enfants. Je ne suis pas sûr que ça ait disparu tant qu'on le dit. Faudrait voir, c'est très compliqué parce que c'est des choses, il y a des solidarités qui se recréent, qui sont même qui sont invisibles socialement. Ce n'est pas parce qu'elles sont invisibles qu'elles ne sont pas là. Je suis pas sûr qu'on ait vers cette fracture des générations. En tout cas, l'urgence écologique, je pense, va nous obliger les uns les autres à réfléchir, à travailler ensemble et à trouver de nouvelles choses ensemble. Et les vieux ont leur place. J'ai beaucoup entendu parler aujourd'hui de l'expérience des anciens. Oui, nous avons une certaine expérience. Et en même temps, les jeunes, indéniablement, ont des choses à nous apprendre, pour autant qu'on accepte qu'ils nous apprennent des choses. Pour moi, on va vers du plus collectif par nécessité.
Peut-être pour terminer, pour reprendre le titre de la conférence interactive à laquelle vous avez participé aujourd'hui à Dieulefit, Bernard Ennuyer, à quoi pourrait ressembler une vieillesse heureuse ?
Eh bien, à celle d'aujourd'hui. C'est très intéressant. Quand on fait des sondages, fais attention aux sondages comme sociologue, quand on fait un sondage sur la qualité de vie, l'âge où les gens se disent le plus heureux aujourd'hui est autour de 70 ans. Ce qui est quand même assez étonnant. C'est pas 20 ans, c'est pas 40 ans, c'est 70 ans. Pourquoi ? Moi, je fais partie de ces gens-là. Alors, bien sûr, OK, j'ai une retraite relativement importante. J'ai eu un métier d'enseignant et tout ça, puis de professionnel. Mais grosso modo, quand vous interrogez les gens, la plupart des gens disent qu'ils vieillissent bien, à part cette fraction, hein, qui vieillissent bien. Ils ne se plaignent pas trop. Alors bon, ils se plaignent un peu d'isolement. Ils ne se plaignent pas trop des jeunes. Ou ils se plaignent autant des jeunes que les jeunes se plaignent des vieux. Hein. Mais je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Je l'ai dit tout à l'heure, pour la fraction, à peu près 1 million de gens, plutôt des femmes, qui ont des ressources faibles, je répète, qui ont de l'isolement social important et qui ont des difficultés de santé. Là, vraiment, il y a un noyau dur sur lequel il faut faire davantage. Mais globalement, on peut dire que la vieillesse en France par rapport à d'autres pays européens ou par rapport à d'autres pays dans le monde, vraiment, on n'a pas à se plaindre de la façon dont on nous vieillissons, puisque je fais partie de ces gens-là.
Et le mot de la fin, pour plus de collectifs, pour être plus heureux, c'est un peu le sens de la conclusion de ce que vous avez voulu dire.
Moi je dirais bien ça. Je continue à travailler, ça me plaît beaucoup, mais bon, je donne des cours, je discute avec mes étudiants, il y a ce que j'ai fait ce matin. Ce matin, indéniablement, en venant ici, j'ai appris des tas de choses sur la région que je ne connais pas. Ça me paraît évident qu'une société qui a perdu le sens du collectif, c'est une société en voie de disparition. C'est très clair.
Merci beaucoup Bernard Ennuyer.
Merci à vous. Merci.
Radiola.media.